Vincent Azoulay, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir à l'occasion de la parution toute récente de ce livre « Ostracisme, du bon usage de l'arbitraire en démocratie ». On reviendra évidemment sur l'importance de ce sous-titre. Vincent Azoulay, vous êtes directeur d'études à l'EHESS. Vous avez signé un Périclès, un livre important au seuil sur le statuaire des tyrannicides. Et puis, il y a quelques années, un livre avec Paulin Ismar qui s'appelait 403, qui était aussi un livre de réflexion sur la question de la guerre civile en démocratie, puisque la démocratie athénienne est votre objet principal d'étude. Et vous revenez dans ce livre remarquablement illustré, on l'évoquera, puisque la question de l'illustration et de l'histoire matérielle de l'ostracisme est très importante. Vous revenez donc sur cette procédure, l'ostracisme, dont tout le monde connaît le nom, ne serait-ce que dans l'usage métaphorique du mot, mais qui est à la fois l'une des plus intrigantes et celle qui a le plus intrigué probablement aussi bien les adorateurs que ceux qui ont critiqué la démocratie athénienne. Et ce livre tend effectivement à faire à la fois une histoire de cette procédure, mais aussi de l'histoire au long terme, au travers de la Renaissance et jusqu'à la Révolution française et l'affaire Dreyfus, de cette idée et de cette notion. Alors, peut-être simplement pour commencer, dire de quel cadre on parle, c'est-à-dire que l'ostracisme, donc, on rattache à ce moment de la démocratie athénienne, c'est-à-dire en gros du 5e et du 4e siècle avant notre ère, dans quel cadre justement cela prend place et qu'est-ce que c'est que cette démocratie au moment où l'ostracisme est instauré?
Oui, l'ostracisme est effectivement très lié à la démocratie et à sa naissance. Disons que elle ne semble-t-il, l'institution serait liée avec les grandes réformes de Clisthène qui sont mises en place après la chute de la tyrannie à Athènes, lorsque donc cette première démocratie formalisée de l'histoire se met en place avec toute une série de réformes, réformes territoriales, réformes de la citoyenneté, auxquelles adjoint, semble-t-il, les Athéniens adjoignent une mesure de défense du régime qui est précisément l'ostracisme. Alors, légèrement décalé, puisque les réformes de Clisthène, on compte à l'inverse, hein, puisqu'on est avant Jésus-Christ, c'est 508-516, et la première utilisation de l'ostracisme, c'est 20 ans plus tard, hein, 488-496. Mais c'est quand même une institution, disons, qui est associée intimement avec la naissance de cette première démocratie de l'histoire.
Et c'est cette procédure, on considère qu'elle a été en œuvre pendant à peu près combien de temps sur la durée de la démocratie?
Alors, c'est l'histoire du 5e siècle athénien, disons, on va dire du siècle de Périclès, puisque effectivement son utilisation s'étend de 488 à 415 avant Jésus-Christ. Donc, c'est en gros trois quarts de siècle, disons. Et si l'institution a été créée par Clisthène, en gros, on peut dire un petit siècle d'utilisation.
Alors, il y a une vraie question. Le premier chapitre de votre livre s'ouvre sur une histoire matérielle de l'ostracisme. La question, c'est comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait de l'ostracisme? Et surtout, quelque chose a fondamentalement changé, on va dire, à partir de la fin du 19e et du 20e. C'est-à-dire qu'on est passé d'une histoire textuelle à une histoire matérielle.
Oui, tout à fait. Si ce livre a de l'intérêt, c'est que effectivement, il repose sur de nouvelles sources, une nouvelle documentation, principalement archéologique, dans la mesure où pendant très longtemps, effectivement, on a essayé de faire l'histoire de l'ostracisme uniquement à partir de sources textuelles et en plus parfois de sources très décalées par rapport au moment où l'institution était en vigueur. Donc, cette histoire qui a été écrite et réécrite, elle a été totalement bouleversée, renouvelée par les découvertes archéologiques. Pour donner une idée, hein, au 19e siècle, on avait encore parfois des hésitations sur la forme des tessons sur lesquels était gravé le nom de la personne qu'on exilait pour 10 ans. Certains pensaient que c'était des coquillages. Et en réalité, dès le 18e siècle, la chose avait été un petit peu quand même comprise par les érudits, mais les peintres encore se trompent fréquemment quand ils représentent l'ostracisme au 19e siècle. Et à partir de la fin du 19e siècle, on a les premières découvertes. Donc au début du 20e siècle, on connaît 4 Ostraca, hein, quatre tessons sur lesquels étaient inscrits des noms d'hommes importants de l'Athènes classique, donc dans le but de leur exil. Et au cours du XXe siècle, on a découvert de plus en plus de ces tessons, jusqu'à une découverte retentissante dans les années 60, dans un remblai d'une dérivation de l'Eridanos, une petite rivière de l'Attique, dans le centre de la cité, où on a trouvé 8500 de ces tessons. On en a en tout aujourd'hui environ 11 000. Et si on peut faire à nouveau une histoire matérielle de cette procédure, une nouvelle histoire matérielle de cette procédure, c'est que entre la découverte archéologique dans les années 60 et leur publication, il s'est passé presque un demi-siècle. C'est-à-dire que le véritable coup de tonnerre, ce qui nous permet maintenant d'avoir une vision presque exhaustive de tous ces tessons, c'est 2018, une grande publication monumentale, colossale, allemande, qui a donné voilà, la lecture des spécialistes et des non-spécialistes, 8500 tessons.
Parce qu'on y reviendra, et c'est très important, sur la question de l'interprétation de l'ostracisme. Sur ces tessons, il y a non seulement les noms des personnes ostracisées ou à ostraciser, mais il y a aussi souvent d'autres mentions, et ces autres mentions nous renseignent sur les motivations de ceux qui pratiquent l'ostracisme. Parce que justement, revenons sur le moment de cadrage, la procédure en elle-même, ce qui est important, c'est qu'elle a deux temps. Est-ce que vous pourriez nous revenir sur ces deux temps, justement?
Tout à fait, parce que donc l'ostracisme, quand on en sait quelque chose, on sait que c'est l'exil, effectivement, d'un citoyen puissant d'Athènes, mais il faut bien avoir en tête que c'est une procédure extrêmement encadrée. Ce que faisaient les Athéniens, c'est d'abord de voter sur l'opportunité ou non de lancer une telle procédure, chaque année. On ne pouvait pas le faire à n'importe quel moment, c'était au sixième mois de l'année, on décidait si, oui ou non, cette année, on allait procéder à un ostracisme. Et puis ensuite, deux mois plus tard, il y avait l'ostracisme proprement dit, on parle parfois d'ostracophorie, la cérémonie d'ostracisme, qui consistait, là, cette fois, à inscrire sur son tesson le nom d'un citoyen puissant pour qu'il soit exilé donc pour 10 ans, hein, de façon temporaire. Et donc, cet écart de temps, hein, est extrêmement important parce que il prévenait un certain nombre d'emballements et aussi il permettait l'orchestration de campagnes qui pouvaient aboutir donc à l'exclusion momentanée d'un citoyen qu'on jugeait capable de renverser le régime, parce que le but avoué de cette institution, c'est d'empêcher le retour de la tyrannie. Et donc ces deux moments, l'un sur l'Apnix à l'Assemblée où l'on décide de l'opportunité ou non de lancer un ostracisme, et puis deux mois plus tard, l'ostracophorie, l'ostracisme à proprement parler, sont une composante essentielle, d'autant que il y a un débat parmi les historiens, mais globalement, les historiennes et les historiens s'accordent à penser que pour que l'ostracisme soit en vigueur, il fallait que, lors de cette seconde phase, il y ait au moins 6000 citoyens qui soit présent et qui ait gravé le nom d'un des suspects qui pouvait être l'objet de la mesure.
6000 citoyens, on considère qu'à ce moment-là, l'ensemble des citoyens à Athènes, c'est à peu près combien de...
Probablement autour de 40 000. Dans les années 430, avant la guerre du Péloponnèse, on est peut-être à 50, 60 000. Mais en 415, après la peste, on est plutôt peut-être autour de 25 000. Donc voilà, ça évolue. Mais en tout cas, 6 000 citoyens, ce n'est pas un quorum extrêmement élevé pour une mesure aussi importante, mais aussi irrégulière. Parce que c'est peut-être aussi la chose qu'il faut immédiatement remarquer, c'est que tout cela ne se faisait donc pas n'importe comment. On a parlé de ces deux phases, mais aussi la plupart du temps, il n'y avait pas d'ostracisme. Et en tout, on a pu, et avec une très grande certitude, recenser voilà, entre, disons, 12 et 14 ostracismes sur les trois quarts de siècle qu'a duré cette pratique. C'est-à-dire, pas tant que cela, une fois tous les 6-7 ans. même si, en général, les ostracismes allaient par grappes, c'est-à-dire qu'ils se multipliaient pendant un moment où la conflictualité politique était extrêmement intense, avant de s'apaiser, puis de ressurgir, en fonction des, voilà, du climat, de l'atmosphère politique de la cité.
Et justement, par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure et à la question matérielle, vous dites que justement, entre le moment de la décision qu'il y a un ostracisme et puis le vote en lui-même, ça laisse le temps pour des campagnes. Et parmi les découvertes intéressantes qu'on a faites, on a découvert des endroits où des tessons étaient manifestement imprimés, alors c'est pas imprimé, mais gravé à la chaîne d'une main proche et qui était vraisemblablement distribué de façon à pouvoir être sûr que ou faciliter un vote dans un sens.
Oui, on a fait une découverte sur le rebord de l'Agora de presque 200 tessons, tous gravés au nom de Thémistocle. Thémistocle, celui qui a, avec les Athéniens, vaincu les Perses à Salamine. C'est pas n'importe qui, mais qui, effectivement, on le sait, est ostracisé en 471 avant Jésus-Christ. Et on a retrouvé donc voilà, à peu près 200 tessons et les archéologues reconnaissent une quinzaine de mains. Donc c'est une quinzaine de personnes qui ont gravé ces quelques 200 tessons qui se ressemblent beaucoup, qui ont été retrouvés ensemble. Ce qui fait dire, donc, d'une part, qu'il n'y avait pas de distribution de matériel de vote par les autorités de la cité. Hein, chacun venait avec son tesson gravé, donc on pouvait les distribuer. Mais qu'en même temps, il n'était pas si facile de bourrer les urnes parce que ces 200 tessons n'ont pas été utilisés. Comment le sait-on ? Parce qu'il n'y a que le nom de Thémistocle, alors que dans toutes les autres découvertes d'ostraca, de tessons, d'ostracisme, on a des noms mêlés. On a parfois une majorité de noms, Mégaclès, mais il y aura toujours un Thémistocle par-ci, un Callias par-là. Donc le fait qu'il n'y ait que des tessons au nom de Thémistocle montre que la manipulation a échoué, ou en tout cas qu'ils ont peut-être distribué un certain nombre et puis qu'il en restait trop sur les mains.
Alors, justement, maintenant qu'on voit à peu près comment fonctionnent les choses, une dimension qui est très importante parce que c'est à la fois la couverture de votre livre et puis c'est donc le fameux épisode raconté par Plutarque dans Les Vies parallèles, donc rappelons-le, 6 siècles après le moment de l'ostracisme, qui est ce qui arrive à Aristide et qui, on va dire, a marqué le cœur de l'interprétation d'une partie justement des intellectuels par rapport à l'ostracisme, qui dire c'est l'envie du peuple athénien qui va punir ses propres héros, et c'est ça qui est incompréhensible. Alors peut-être raconter effectivement cette anecdote, et est-ce qu'effectivement c'est l'envie qui est le moteur de la part des Athéniens pour exclure leurs grands hommes?
Effectivement, c'est l'anecdote qui a été la plus utilisée, en général au détriment d'Athènes, hein, pour voilà, alimenter le procès contre la démocratie irrationnelle, capricieuse et envieuse. C'est cette anecdote qui se trouve dans la vie d'Aristide de Plutarque, Aristide, un des grands personnages de la cité, qui effectivement est en proie à l'ostracisme en 482, et Plutarque, donc, mais effectivement, 6 siècles après les événements, raconte une anecdote où Aristide se trouve confronté à un rustre venu de la campagne qui lui demande, sans le reconnaître, de graver le nom d'Aristide sur son tesson parce que lui ne sait pas écrire. Et Aristide lui demande « Mais que t'a-t-il fait pour que tu veuilles ainsi l'exiler ?» Et le rustre lui répond « J'en ai assez, j'en ai marre de l'entendre partout appeler le juste ». Dikaios en grec, et Aristide ne répond rien, écrit son propre nom et lui rend le tesson. Et c'est une histoire qui a une énorme fortune, donc à la fois dans les sources à partir de la Renaissance qui parle de la démocratie athénienne, souvent en mal, hein, on commence à parler bien de la démocratie athénienne seulement à partir du milieu du 19e siècle. Hein. Avant, on n'en a que pour Rome, la République, l'Empire, et puis Sparte. Hein. Donc, on s'en sert pour donc, faire le procès de la démocratie athénienne. Et en général, et donc fortune textuelle, mais aussi fortune picturale. C'est un épisode qui a voilà, mobilisé l'imaginaire des peintres, et le livre essaye de suivre ce motif iconographique. Ce qui est fascinant dans cette anecdote, c'est qu'elle est sans doute totalement fausse, mais qu'en même temps, elle capture un certain nombre de traits intéressants, une fois qu'on essaye de neutraliser la charge polémique de Plutarque, elle capture un certain nombre de traits très intéressants du fonctionnement de l'institution. Et le principal, c'est d'ailleurs ce qu'on ne lit jamais, c'est-à-dire la suite de l'histoire, mais qu'on voit déjà d'une certaine façon quand même dans l'anecdote principale, c'est l'acquiescement d'Aristide à son propre sort, le fait qu'il écrit son nom et que ensuite il accepte son sort. Et ça, c'est un des éléments qui effectivement est très frappant là pour le coup quand on fait une histoire de totale de l'ostracisme sans se contenter de Plutarque, c'est de s'apercevoir que tous ces ostracisés, ces hommes qui ont subi donc un sort qu'on peut qualifier d'injuste, hein, parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que pour être ostracisé, il n'y avait pas avoir besoin d'avoir commis la moindre faute. Donc, c'est vraiment un symbole d'arbitraire. Hein, c'est pas un procès. C'est simplement voilà une suspicion. Donc cet arbitraire démocratique est accepté par les ostracisés qui jamais ne se révoltent, ni même ne se réfugient ensuite dans leur demeure pour dire « bon, j'en ai assez soupé avec la politique et les Athéniens et leur ingratitude ». Non, l'ostracisme a réussi, ce petit prodige, mais rarement mis en avant, de domestiquer les hommes politiques athéniens.
Est-ce que certains sont rappelés? Certains reviennent, certains redeviennent stratèges ou dirigent des campagnes, et même certains prennent le risque d'être ostracisés une deuxième fois.
Oui, on en a au moins un cas de double ostracisme, mais effectivement, ce qui est frappant, c'est que l'ostracisme est une mesure provisoire. Ce n'est pas un exil irrémédiable. C'est d'ailleurs un des malentendus sur l'institution. Il a été, depuis Aristote, rabattu sur l'exil. L'exil qui, au contraire, crée la révolte chez ceux qui le subissent. Parce que l'exil, c'est vraiment voilà, devoir quitter sa patrie, être totalement coupé de ses proches. Ce n'est pas le cas de l'ostracisme. Avec l'ostracisme, on conserve sa citoyenneté, on conserve aussi la jouissance des revenus de ses terres. Et on sait que cela va avoir une fin, et souvent plus tôt que les 10 ans qui sont, disons, le maximum, on va dire, de la peine. Et la plupart, effectivement, des ostracisés sont rappelés auparavant, parce qu'on a besoin d'eux. Et ceux qui ne sont pas rappelés par avance reviennent et n'ont jamais rompu les ponts avec la cité. Il n'y a que... un cas célèbre, on pourrait dire c'est un contre-exemple, c'est Thémistocle qui finit sa vie chez le roi de Perse, lui qui l'avait vaincu à Salamine, mais qui en réalité, ce n'est pas l'ostracisme qui l'amène à aller chez le roi de Perse. C'est parce que après avoir été ostracisé, il se tient tranquille juste à côté d'Athènes, à Argos, mais ensuite il est l'objet d'une seconde procédure judiciaire où là il est condamné à mort par contumace. Et ce n'est que là qu'il va finalement, c'est-à-dire la mort dans l'âme, peut-être pas, mais en tout cas qu'il va se résoudre à passer à l'ennemi, aux Perses.
Oui, puis on y reviendra parce que c'est aussi le cas avec Alcibiade, c'est-à-dire que en fait le travail très fin que vous faites consiste aussi à montrer que un certain nombre d'entre eux sont ostracisés et après ont des peines pour d'autres motifs. Et que souvent, dans un effet d'écrasement de perspective historique, on a rabattu l'un sur l'autre, alors qu'en fait, les choses sont complètement séparées. Vous dites que c'est de l'arbitraire. Pourtant, ce n'est pas parce que c'est de l'arbitraire qu'il n'y a pas de critères. Et c'est le cœur du livre qui est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que, justement, une partie des citoyens athéniens va considérer que telle personne, tel personnage, doit être ostracisé. Parce qu'une chose à rappeler qui est importante, c'est que dans l'absolu, n'importe qui peut voir son nom inscrit sur un tesson, mais évidemment, seuls les personnages qui occupent certaines positions, de fait, le sont. C'est pas un instrument de vindicte entre voisins.
Oui, alors il y a quelques noms d'Athéniens lambda, et donc il y a peut-être des haines recuites entre voisins qui ont pu jouer, mais c'est tout à fait marginal. On a 176 noms identifiés dans, dans la documentation archéologique, donc 176, on va dire, ostracisables, donc sur là-dessus, entre 12 et 14 ostracisés, et parmi les ostracisables et les ostracisés, effectivement, c'est très majoritairement des gens qui ont occupé des positions, qui sont des gens puissants, des gens riches, et c'est effectivement un instrument de contrôle des élites qui est là aux mains du démos, aux mains du peuple. Et c'est vrai que ce qui est intéressant grâce à cette documentation archéologique renouvelée, c'est qu'on s'aperçoit que cette mesure, effectivement, qui est arbitraire dans son principe, est néanmoins alors très régulée dans son cours, dans ses effets, mais aussi dans ses motivations. Et ce qui m'a beaucoup frappé en faisant l'étude de tous ces ostracas que j'appelle motivés, où le scripteur, celui qui marque le nom, indique aussi la raison pour laquelle il pense que cet homme doit être écarté momentanément de la cité. Enfin, en faisant l'inventaire de tous ces mots doux, parce que souvent c'est des injures, qui sont rajoutés en plus du nom de l'ostracisable ou de l'ostracisé, on s'aperçoit qu'effectivement tout cela ne se fait pas sans règles et qu'il s'agit surtout de viser les mœurs, les façons d'être, les façons de se comporter d'un individu puissant et qui le présente comment, à la fois comme traître à la patrie et comme tyran en puissance, exerçant sa domination sur les autres, sur le plan sexuel et monétaire. Donc on va trouver des choses comme des accusations d'adultère, mégakles moikos, vraiment l'adultère étant extrêmement grave, puisque ça met le doute sur la légitimité des citoyens à un moment où il n'y a pas que des citoyens à Athènes, mais aussi toute une série de non-citoyens, des esclaves, des métèques, etc. Donc, adultère, luxe, éleveur de chevaux. Alors, éleveur de chevaux, ça paraît ridicule pour nous, mais non, pour élever des chevaux, il faut être extrêmement riche. Et puis, c'est aussi par les chevaux, et notamment par la course de chars, que l'on peut se distinguer et donc créer l'envie du peuple, mais surtout affirmer une position de domination. Et d'une certaine façon, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'ostracisme n'était effectivement pas sans raison et cherchait à limiter les honneurs supplémentaires que cherchent à obtenir les Athéniens les plus puissants. Non pas les honneurs de base que tous les Athéniens partagent, mais ceux qui vraiment les distinguent de la foule.
Et donc, est-ce que c'est finalement une sorte de sanction face à l'excès ? Est-ce que ça a à voir avec la notion d'hubris qui est présente dans une partie de la philosophie grecque ? Est-ce que c'est lié à cette idée-là ? C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'entreprise démocratique dans son ensemble de déterminer quels sont la bonne quantité d'honneur et que ce n'est pas à l'individu de s'attribuer à lui-même les honneurs qu'il veut.
Tout à fait. Ça a à voir avec la notion d'hubris, qui est effectivement travaillée par les philosophes, mais qui est aussi travaillée au théâtre, et donc devant tous les Athéniens, puisque le théâtre, c'est aussi ce grand phénomène civique-religieux qui accompagne la montée en puissance de l'ostracisme. La comédie, notamment, attique, naissant et exactement au même moment que l'ostracisme. Première comédie, c'est 487 avant Jésus-Christ. Premier ostracisme, 488. Donc il y a là un synchronisme signifiant et effectivement la volonté de remettre les hommes puissants à Athènes à leur place, pas au-dessus des autres. Et ça, c'est vrai que c'est l'un des effets, me semble-t-il, les plus puissants, peut-être pas imaginé au départ par le législateur, mais qui est de domestiquer les élites sans provoquer ni leur sécession ni leur révolte.
Donc, ce qui veut dire que vous allez à l'encontre de l'interprétation qui considère que c'est un mécanisme de régulation interne aux élites. Qu'est-ce qui a été aussi l'une des interprétations données de l'ostracisme ?
Tout à fait, parce que l'ostracisme, quoique institution ancienne et disparue depuis longtemps, a une forte actualité historiographique et il y a des livres qui ont été publiés, des articles sur la mesure, et je m'inscris dans des débats contemporains très vifs, entre antiquisants, on s'envoie aussi des noms d'oiseaux. Travaillent ensemble, mais effectivement parfois dans le dissensus, et un certain nombre d'auteurs pensent que en réalité l'ostracisme était un outil aux mains des élites athéniennes et pas tellement dans les mains du peuple pour régler leurs conflits, les conflits internes à l'élite, et que même paradoxe stimulant, mais à mon sens erroné, l'ostracisme aurait été inventé pour ne pas être utilisé. C'est-à-dire que ça aurait été une sorte d'arme nucléaire aux mains des élites qui auraient beaucoup hésité à s'en servir, parce qu'une fois qu'on lance une procédure d'ostracisme, eh bien, l'année suivante, on peut soi-même, comme un boomerang, être la victime de cette procédure. Alors ça, c'est une interprétation qui vient de loin, en réalité, certainement de Nietzsche, qui avait tendance à faire des cités grecques le monde de l'agonisme, le monde de la rivalité, de la concurrence, et de la concurrence de qui ? Pas du citoyen lambda, mais des surhommes. Des surhommes qui doivent sans cesse se battre entre eux dans un équilibre instable, l'ostracisme visant précisément à ce que l'un ne supplante pas tous les autres. Donc un mécanisme de régulation interne aux élites. Mais c'est, à mon sens, une vision élitaire et foncièrement antidémocratique de la mesure, qui compte pour rien le peuple athénien, qui est quantité négligeable, manipulée par ses orateurs les plus puissants.
Oui, ce que vous essayez de montrer, c'est que, en fait, finalement, il y a deux types d'interprétations par ailleurs. Celle que vous venez d'évoquer, donc, qui est élitaire, donc, qui est contre la démocratie, et l'autre, on va dire dans une lignée de plus tard, qui consiste à dire que c'est la manifestation de la faiblesse ou de la médiocrité de la démocratie. Alors que ce que vous essayez de montrer, au contraire, c'est que on peut voir l'ostracisme de façon entre guillemets positive, c'est-à-dire sous la forme de laquelle, finalement, par cet arbitraire régulé, je pense qu'il faut que vous insistiez là-dessus, le peuple fait l'épreuve de son propre pouvoir et montre qu'il peut tenir ses propres élites.
Tout à fait. J'ajouterais même une dernière interprétation, qui est l'interprétation qu'on peut qualifier de ritualiste, qui a tendance à voir dans l'ostracisme une façon de conjurer les angoisses profondes de la communauté se trouvant un bouc émissaire. Qui est une interprétation stimulante, qui remonte notamment à Vernon et Vidal-Naquet, qui a été reprise par un certain nombre d'historiens, mais qui se heurte aussi, malgré tout, pose un certain nombre de problèmes dans la mesure où elle fait fi de l'effet politique, mais politique élargi, diffus, que produit la mesure. Et c'est vrai, vous avez aussi raison d'insister sur cette notion d'arbitraire régulé, qui avait été très bien vue déjà par Montesquieu au XVIIIe siècle. L'ostracisme, effectivement, est dans son principe arbitraire, mais est entouré d'un luxe de précaution. Et le fait qu'on ne puisse pas l'en faire plus d'une fois par an, c'est déjà un garde-fou absolument crucial. Et que la sanction soit si limitée, justement, ça ne s'apparente pas à une forme de peine d'exil permanente, qu'on garde sa citoyenneté, que l'ostracisé aussi jouisse des revenus de ses terres. Tout cela montre un luxe de précaution pour essayer de tenir un équilibre. Un équilibre entre l'épée de Damoclès que représente l'ostracisme, c'est quand même pas rien d'être ostracisé pendant quelques années, et en même temps la manière de ne pas rompre avec ces élites même ostracisées, de façon à pouvoir les faire revenir, et les faire revenir même potentiellement plus volontaire dans l'idée de servir le bien commun. C'est en tout cas ce réglage qu'on peut essayer de voir à l'œuvre et qui fonctionne. C'est pas tellement la façon dont on a écrit cette histoire dans l'Antiquité, mais la façon dont on peut la faire aujourd'hui avec toute la documentation disponible.
Oui, donc finalement, en poussant un peu l'interprétation, c'est l'idée que la démocratie athénienne, jusqu'à un certain point, a conscience de sa faiblesse, et qui est un reproche fait sans fin aux démocraties de régime à la fois dans lequel on désire être et toujours insatisfaisant, et que cette dose d'arbitraire, sous couvert de régulation, permet d'introduire une forme de force, entre guillemets, et d'énergie au sein de la démocratie.
Oui, mais ça, pour le coup, ça renvoie à des débats très contemporains. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir, si on prend au sérieux le nom de démocratia, le kratos, c'est le pouvoir, mais ce n'est pas un pouvoir sympathique, le kratos. Quand on regarde ce que les textes grecs en disent, la façon dont ils mobilisent la notion de kratos, le kratos, c'est un pouvoir d'écrasement. Et on n'écrase pas dans le vide, on écrase des gens. Et le démos, c'est le peuple. Le démos, c'est à la fois tout le peuple, tous les citoyens, mais c'est aussi la partie la plus pauvre sociologiquement. Et donc, si on prend au sérieux le nom de démocratia, on peut aller du côté qui a été d'un certain nombre de philosophes ou d'historiens communistes, c'est les démocraties populaires, et c'est une proposition qui a sa cohérence. Dire, voilà, c'est la lutte des classes. Et la véritable démocratie, c'est lorsque le peuple écrase totalement les élites, ou on peut, au contraire, essayer de penser un kratos, mais un pouvoir qui cherche toujours la limite à s'auto-limiter. Et c'est ce que disait déjà Cornelius Castoriadis, hein, la grande question de la démocratie, c'est celle de l'auto-limitation. Et donc c'est un kratos, donc il y a une part d'arbitraire, et dans toute véritable démocratie, il y a peut-être une part d'arbitraire, mais qui cherche toujours sa propre limite, et qui interroge sa propre limite, que ça soit sur scène ou dans sa pratique institutionnelle, et ce que me semble cristalliser véritablement l'institution de l'ostracisme.
Avec un point justement aussi, non pas paradoxal, mais qui vient en révélateur du fonctionnement de l'ostracisme, qui est le dernier ostracisé, donc Hyperbolos. Donc parmi les textes, il y a l'hypothèse que finalement, ça a apporté la fin de l'ostracisme parce qu'il en était indigne. Et qu'à partir de... parce que c'était quelqu'un, on va dire, un simple voyou,
C'était un homme politique, tout à fait important, simplement qui n'avait pas le même pédigré que Alcibiade et Nicias, qui étaient ses concurrents en 416, au moment où il est ostracisé. C'est pas du tout n'importe qui, hein, c'est quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, mais bien sûr, dont les textes ont fait... quasiment le fils d'un esclave, il était moqué par la comédie au même moment où il est ostracisé, mais c'est un homme politique important, mais qui effectivement n'a pas une fortune qui repose sur la terre, dont la sociologie fine rompt avec les vieilles élites, qui n'étaient pas si vieilles d'ailleurs, hein, du début du 5e siècle, Périclès en tête. Donc c'est pas n'importe qui. Mais effectivement, il est ostracisé, et il est ostracisé alors qu'il y avait deux candidats, disons, au moins aussi naturels que lui à l'ostracisme, dont le fameux Alcibiade. Et c'est vrai qu'on en a fait donc... on a expliqué souvent la fin de l'ostracisme par le fait que l'ostracisme, et c'est dans les sources déjà de l'époque, hein, que l'ostracisme n'est pas fait pour ce type de gens, sous-entendu des moins que rien, qui ne le sont pas. En réalité, je pense que ce qui choque le plus, c'est que très certainement, c'est pas un assoiffé de distinction comme le sont Nicias et Alcibiade, et que l'ostracisme a un rapport très spécifique avec l'honneur. L'honneur démesuré, on a parlé du bris, que les Athéniens cherchent à rabattre. Et c'était certainement pas le cas d'Hyperbolos, en tout cas beaucoup moins qu'Alcibiade et Nicias, qui sont des citoyens assoiffés d'honneur. Hein. Rappelons qu'Alcibiade, juste avant que cet ostracisme se tienne lieu, il fait concourir 7 quadriges à Olympie, et il obtient la première, la deuxième et la quatrième place. Tellement il est assoiffé de distinction. Et ce n'est pas le seul théâtre, la seule arène où il va chercher des honneurs. Et l'ostracisme était effectivement l'un des moyens de rééquilibrer cette volonté folle de distinction qui anime une partie des élites athéniennes au 5e siècle. Mais si on veut aller au-delà des textes et de leur, leur vernis idéologique, l'hypothèse que que je présente dans le livre, c'est qu'en réalité, la fin de l'ostracisme n'a pas à voir avec cela, et certainement pas avec l'origine supposément douteuse d'Hyperbolos, qui est donc le dernier ostracisé de l'histoire, en 416, probablement avant Jésus-Christ. En réalité, si l'ostracisme est abandonné, et d'ailleurs, faudrait-il dire pas totalement abandonné, parce qu'on continue à poser la question, simplement, durant tout le IVe siècle, pendant plus de 100 ans, on va chaque année demander, lors du sixième mois de l'année, si on doit ostraciser quelqu'un, mais on ne le fait plus. Donc si la procédure n'est plus mise en vigueur, c'est parce qu'elle n'est plus suffisamment punitive, considérée comme punitive, dans un contexte, la guerre du Péloponnèse, où le peuple cherche à contrôler beaucoup plus étroitement ses élites. Les grands procès, il en existait au Ve siècle, mais les grands procès politiques, il y a une véritable épidémie, il y a des actions judiciaires spécifiques qui visent les orateurs et les magistrats qui se développent à ce moment-là, et qui sont donc beaucoup plus punitifs que l'ostracisme, à un moment où on cherche à les tenir dans un contexte qui va bientôt aboutir aux révolutions oligarchiques de la fin du Ve siècle. Donc si l'ostracisme n'est plus utilisé, c'est avant tout parce qu'il n'est plus considéré comme suffisamment punitif, c'est-à-dire écarter momentanément une personne, au mieux une fois par an. Alors qu'en 415, l'année qui suit le dernier ostracisme, on va exiler à tour de bras et condamner de nombreux citoyens qui ont été impliqués dans la parodie des mystères d'Éleusis et la mutilation des Hermès, un grand scandale religieux qui secoue la cité au moment même où la guerre du Péloponnèse reprend de plus belle.
Oui, parce que pour le coup, dans l'ostracisme, il n'y a aucune dimension religieuse.
Alors, c'est compliqué. Ça s'apparente à un rituel. Mais c'est vrai que la façon dont les historiens l'ont assimilé à un rituel, en comparant l'ostracisme à, par exemple, au Targéli, qui était une fête au cours de laquelle on expulsait un bouc émissaire, est problématique. L'ostracisme a un rapport compliqué avec le rituel. C'est-à-dire qu'il y a quand même des accusations, notamment d'impiété, qu'on trouve gravée à côté du nom d'un certain nombre d'ostracisés. Il y a la structure même de l'ostracisme qu'on pourrait et qu'on a pu comparer à celle d'un grand rituel civique. Donc, ce n'est pas un rituel, mais très certainement, il y avait des sacrifices, on portait des couronnes au moment où l'on procédait à cet exil régulé. Donc, dire qu'il n'y a pas du tout de dimension religieuse, ce serait exagéré. En faire un rituel à part entière, c'est aussi compliqué, ne serait-ce que parce qu'un rituel, en principe, a une périodicité et que l'ostracisme n'en a pas. Un rapport complexe et disons dialectique avec la question du sacré et du rituel.
Alors justement, donc après cette fin dont vous évoquez la façon dont selon vous il finit, parce que finalement suffisamment efficace par rapport à ce qui est devenu le rapport du peuple et des élites dans l'Athènes démocratique, la deuxième partie du livre est consacrée à la façon dont l'ostracisme n'en finit pas de ressurgir à partir de la Renaissance, au travers des Lumières, de la Révolution française et quasiment jusqu'à nos jours. Et ce qui est très intéressant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est peut-être une image qu'on n'a pas forcément en tête, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, la vision de l'Athènes antique est extrêmement négative et que quand l'ostracisme ressort, c'est plutôt pour critiquer, pour montrer, c'est bien la preuve que c'était un régime politique qui ne fonctionne pas. Et en même temps, ce que vous montrez, c'est que le ressurgissement au moment de la Renaissance et de la redécouverte des textes anciens correspond aussi, et ça sera le cas à chaque fois, à un moment politique spécifique qui est celui des villes italiennes au 15e et qui fait qu'il y a un emploi politique là aussi de l'histoire de l'ostracisme.
Oui, parce que effectivement, j'ai peint à gros traits une réception de la démocratie athénienne, disons avant tout négative, jusqu'au milieu du 19e siècle. C'est effectivement exagéré. La Renaissance italienne a parfois un usage positif d'Athènes. Mais en réalité, il est quand même limité. La plupart des humanistes n'ont que dédain pour cette cité capricieuse qui martyrise ses élites et ses élites lettrées. Hein. Donc, des gens comme Pétrarque sont très opposés à la démocratie athénienne, et on peut suivre cette histoire au long cours. Il y a une exception, c'est Florence. Florence, qui précisément à la fois une culture du bannissement, de l'exil, et une culture du contrôle de ses grandes, ce qu'on appelle les magnati, les grandi. Et depuis la fin du XIIIe siècle, il y a des ordonnances qui cherchent à contrôler les puissants. Et ce qui va les amener à mobiliser la référence à l'ostracisme pour parler d'eux-mêmes. Et on en trouve les traces, alors chez Leonardo Bruni, d'une part, début du XVe siècle, mais surtout ensuite chez Rinuccini et puis chez Machiavel. Machiavel qui, donc au début du XVIe siècle, donc Florentin lui-même, ayant expérimenté l'exil, va se livrer à une analyse dépassionnée de l'ostracisme. C'est l'un des tout premiers à en donner une vision, sinon positive, du moins à en comprendre la nécessité politique, en expliquant que, pour une fois, les Athéniens n'ont rien à envier aux Romains. Si les Romains n'ont pas ostracisé leurs élites, c'est tout simplement parce que la tyrannie, le souvenir de la tyrannie était moins proche, et peut-être d'ailleurs aurait-il dû le faire, et ça leur aurait évité les désagréments du principat d'Auguste et puis de l'Empire. Donc il a une analyse extrêmement féconde et profonde de l'ostracisme, et c'est, voilà, disons, un éclair positif dans cette appréciation de l'ostracisme qui est immédiatement recouvert. Et chez Guichardin, qui est un grand copain de Machiavel, on retourne à une vision plutôt négative de l'institution, avec un peuple capricieux qui persécute ses élites.
Oui, et vous l'évoquiez, parce que ça, c'est important, parce qu'à la fois, c'est présent dans, on le voit sur le tableau et dans l'anecdote de Plutarque, et en même temps, vous l'évoquez en passant au moment athénien, et là vous le dites aussi, il y a en soubassement permanent aussi la question du rapport ville-campagne et du rapport lettré, et est-ce qu'on peut faire confiance à un peuple qui n'est pas lettré. Alors c'est finalement ce que vient révéler l'anecdote de Plutarque, mais ça aussi c'est un fil conducteur sur cette histoire de l'ostracisme.
Oui, parce que effectivement, et c'est tout un débat parmi les historiens et les historiens, c'est quel degré, par exemple, d'illettrisme y avait-il à Athènes dans cette première démocratie de l'histoire, surtout au début du 5e siècle. Alors, on a des graffitis retrouvés récemment à Varie qui montrent que des bergers sont capables d'écrire des noms. Donc, c'est très difficile, il est impossible de donner des pourcentages, mais on peut penser qu'on est dans une situation qu'on appelle de semi-littératie, d'alphabétisation restreinte. L'anecdote du rustre, elle est évidemment apocryphe, réinventée. Elle montre que il y a des gens qui ne savent pas écrire, qu'en même temps, n'importe quel passant à Athènes, ils ont des chances raisonnables de trouver quelqu'un qui, lui, le sait. Donc, c'est du côté ancien, mais c'est vrai que bien souvent, l'histoire de l'ostracisme a été écrite par des lettrés, et que les lettrés, effectivement, n'aiment pas cette démocratie qui persécute des hommes cultivés, notamment. C'est une des explications parmi d'autres qui justifie la détestation de l'institution sur le long terme, y compris pendant la Révolution française, qui est l'autre grand moment où l'institution va être véritablement mobilisée.
Oui, alors ça c'est très important, parce que pour le coup, et c'est passionnant, parce qu'elle est sur la durée de la Révolution. C'est-à-dire que aussi bien un peu en 91 que au moment de la Terreur, que jusqu'en 97.
Oui, parce que elle est l'objet des premières dissertations érudites. Les institutions de savoir lancent même un grand concours, sur l'ostracisme, juste avant qu'éclate la Révolution, en avril 89. Ça marche pas d'ailleurs, ils n'arrivent pas à donner le prix parce que tous les mémoires qui ont été rendus sont mauvais. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet ostracisme qui a été repensé notamment par Montesquieu, mais qui continue à avoir mauvaise presse, va être sollicité à l'Assemblée. Dans les discours d'Assemblée, on ne cesse de parler d'ostracisme pour évoquer le fonctionnement de l'Assemblée constituante ou de la Convention, de le mobiliser. Et Robespierre, en 1791 puis 92, est l'un de ceux qui va à la fois mobiliser le souvenir de cette institution athénienne, de façon positive d'abord, puis après de façon beaucoup plus mesurée, quand il va être confronté au risque d'être lui-même ostracisé. Donc en 1791, dans son grand discours sur la liberté de la presse, il dit que l'ostracisme est une mesure merveilleuse et que, avec une persécution passagère, comme il dit, on pourrait éviter bien des déboires à la Révolution. Et donc, il faut prendre des mesures préventives. Et puis l'année suivante, il est l'objet d'attaques féroces qui... de son propre camp, hein, qui mettent en avant l'ascendant qu'il a pris sur le peuple parisien et qui réclame son ostracisme. Et là, dans sa 11e lettre à ses commettants, à ceux qu'il représente, il explique que l'ostracisme, on ne peut pas l'adapter comme ça en France. Il y a toute une série de conditions qui sont très, très bien pensées et qui sont tirées de sa lecture précise de Montesquieu. Et que l'ostracisme, en réalité, n'est pas la panacée, et elle l'est d'autant moins que, en cette fin d'année 1792, se pose la question de la mort du roi, et que l'ostracisme est utilisé par les adversaires de la mort du roi, qui n'est pas encore décapité, hein, c'est janvier, 21 janvier 1793. L'ostracisme est utilisé comme une sorte de peine de substitution pour éviter la peine capitale. Donc il a deux raisons, d'une certaine façon, d'avoir une vision beaucoup plus nuancée de l'ostracisme après l'avoir porté au nu. C'est d'une part qu'il risque d'en être lui-même victime, et puis que c'est une façon pour d'autres révolutionnaires d'essayer d'éviter la mort du roi. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette histoire ne s'arrête pas là. C'est qu'on retrouve l'ostracisme mobilisé dans les projets de constitution en 1793, puis après Thermidor, et avec un grand moment de réutilisation du souvenir de l'ostracisme et même de sa mise en application, qui est 1797, lorsque la révolution est confrontée, n'est pas encore finie, hein, et est confrontée à des élections où la noblesse prend l'ascendant et se pose la question des mesures qu'il faut prendre. Et c'est là que va être décidé d'ostraciser, c'est une commission dirigée par Boulet de la Meurthe, qui décide d'ostraciser la noblesse en masse, en tout cas tous ceux qui n'ont pas participé à la révolution, enclenchant un grand débat à la fois érudit et politique entre révolutionnaires, entre ceux qui soutiennent cet ostracisme de la noblesse et ceux qui s'y opposent. Et parmi ces hommes, il y a Sieyès, il y a Talleyrand, et puis il y a Benjamin Constant. Et Benjamin Constant, en 1797, c'est pas encore le grand historien et homme politique qu'il va devenir, il est déjà important. Mais c'est intéressant de le trouver là, luttant contre l'ostracisme et jugeant que sa transposition depuis l'Athènes classique dans la France révolutionnaire serait tout à fait abusive. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 1815, c'est Benjamin Constant et celui qui, d'une certaine façon, va prendre congé de ce qu'il juge comme ayant été une folie révolutionnaire, c'est-à-dire l'usage à tout bout de champ de l'Antiquité pour justifier des mesures des révolutionnaires. C'est lui qui va creuser la distance entre l'Antiquité et cette liberté des modernes qui n'a plus rien à voir, selon lui.
Oui, ça c'est très important, parce que pour le coup, ce texte-là de la liberté des anciens et des modernes, c'est vraiment un texte décisif, puisqu'il crée... jusqu'à un certain point, il vous aide, puisqu'il va aussi constituer strictement l'Antiquité comme objet d'histoire, mais pour le découpler du politique, et c'est le moment à partir duquel, donc, il y a cette espèce de victoire paradoxale de l'ostracisme qui fonctionne sur les nobles, mais qui, sans vraiment fonctionner, parce qu'elle est décidée et elle est jusqu'à un certain point pas intégralement applicable.
Oui, puis c'est pas de l'ostracisme, puisqu'elle n'est pas momentanée.
Voilà,
hein, et que c'est jusqu'à le retour du comte de Paris. Hein, ça a mis du temps, comme on le sait. Donc ça n'a rien à voir avec l'ostracisme. C'est un usage dévoyé. On est aussi dans ces usages dévoyés de la notion dont j'essaye ensuite de faire l'histoire jusqu'à aujourd'hui.
Oui, parce que ça va devenir une métaphore. Et bon, on va laisser aussi au lecteur le plaisir de découvrir toutes les joies du livre. Justement, alors. C'est toujours la complexité, pour après l'évocation de Benjamin Constant, mais d'essayer de se dire qu'est-ce que il y a en retirer, parce que le dernier mot de votre livre c'est au travail. Qu'est-ce qu'il y a à retirer intellectuellement de cette histoire-là? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut se dire est-ce que c'est cet arbitraire bien contrôlé qui est effectivement une piste intéressante, mais en même temps le mot d'arbitraire fait plus que peur dans un régime de droit.
Il a raison.
Voilà. Donc comment, selon vous, l'histoire de l'ostracisme peut fonctionner comme ferment intellectuel?
Alors, je pense qu'elle peut fonctionner comme ferment intellectuel, mais précisément pas comme on l'a utilisé au cours de l'histoire, y compris de façon positive, sous le mode de la transplantation. Même de l'acclimatation, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait utiliser une institution venue du passé pour l'appliquer à nos régimes parlementaires et représentatifs fatigués. Parce que c'est méconnaître profondément la façon dont fonctionnent les institutions qui ne fonctionnent jamais seules, mais en grappe, en écosystème. C'est tout à fait le malentendu autour du tirage au sort, par exemple. Hein. Tirage au sort, on peut faire une très belle oligarchie avec du tirage au sort. Donc, c'est un écosystème d'institutions qui peut effectivement avoir un effet, et en plus qui repose toujours sur des mœurs, sur une anthropologie, sur des hommes. Et on ne peut pas, comme ça, penser à une solution miracle venue d'une martingale institutionnelle quelconque. Donc, il me semble que l'ostracisme, s'il est encore pertinent pour penser un certain nombre de phénomènes aujourd'hui, c'est moins par les solutions qu'il pourrait sembler apporter que par l'ensemble de questions qu'il remet au goût du jour. Et d'abord, celle-là, c'est comment contrôler les élites. Et bien sûr, la voie athénienne nous est fermée hein, dans cet univers mondialisé où les élites cherchent surtout à s'exiler, à faire sécession à Dubaï, voire sur Mars. Donc le but n'est pas de les exiler, mais plutôt de les tenir là et éventuellement essayer de les faire contribuer au bien commun, ce qu'elles rechignent de plus en plus à faire. Donc c'est moins des solutions qu'un ensemble de questions avec l'idée qu'il ne faut pas avoir une idée simple et simpliste des supposées leçons de l'histoire.
Vincent Zoulet, merci beaucoup de cette très belle lecture autour de l'ostracisme et j'invite évidemment à la lecture de ce livre magnifique et remarquablement illustré. Merci beaucoup.